France Musique.
Merci Lionel Esparza.
Bonsoir Lionel. On vous retrouve demain en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
Tapage nocturne jusqu'à minuit, c'est reparti.
Mais attends, il manque un truc, non? Genre un cocktail au jus de papaye. Tu crois pas que si on était en train de siroter un cocktail au jus de papaye, l'instant serait encore plus idéal? Oui! C'est ça, un cocktail au jus de papaye. Ne bouge pas, Pamela, je reviens avec un cocktail au jus de papaye.
John, quel perfectionniste. Je me demande ce que tu voulais me demander de si important.
Nous recevrons la compositrice Michèle Bokanowski, dont l'itinéraire croise celui d'Eliane Radig et Pierre Schaeffer. Son catalogue recèle de nombreuses pépites sonores à destination du concert, de la danse et du cinéma. Elle signa notamment en 1982 la musique de L'Ange de Patrick Bokanowski, voyage surréaliste dans un univers baroque, film devenu culte pour tous les cinéphiles. Mais débutons cette émission avec la 14e édition du festival City Sonic, qui a ouvert ses portes mercredi dernier à Mons. Ce festival d'art sonore propose, comme chaque année, multiples facettes, comme des installations et des performances, occasion d'aiguiser ses oreilles vers d'autres champs des possibles. Pour nous parler de cet événement, nous recevons son fondateur et commissaire artistique, Philippe Franck.
Bruno Le Thor et François Bonnet. Tapage nocturne. France Musique. France Musique.
Philippe Franck, bonjour.
Bonjour.
Alors, nouvelle édition de City Sonic, 14e édition. Quels sont les temps forts de cet événement?
C'est un esprit, le temps fort, parce qu'à l'esprit, c'est lui qui détermine les temps forts, finalement, celui qui détermine la programmation. Et c'est vrai qu'on a eu envie, après avoir participé activement à Mons 2015, capitale européenne de la culture, et avoir une grosse édition dans une plus de 20 points dans la ville, et avoir participé au grand spectacle urbain, on a eu envie de revenir vers un esprit défricheur, corsaire, qui était l'esprit du début de ce Tissonique, où on ne demandait pas toujours les autorisations pour faire les choses, où on allait dans les passages insolites, on faisait du lien finalement entre des communautés, entre des artistes, entre des pratiques, entre des architectures, bien sûr, ce qui est le principe du Tissonique, la balade dans la ville sonore. Et là, on s'est dit qu'il fallait remettre un coup un peu sur les jeunes artistes, parce que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans une culture culture de l'entertainment, du spectacle, comme j'ai dit, au sens presque debordien. Ce qu'on croyait extrême comme citation des années 60, aujourd'hui sont devenues des évidences, malheureusement. Et un festival comme Sismic est avant tout un festival de création sonore ouverte à toutes les émergences, à mon avis, se doit aussi, avant tout, de soutenir les émergences et les jeunes artistes. Donc ça, c'est un peu l'esprit. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tomber les artistes internationaux, ni les échanges internationalistes qui sont les nôtres avec Transculture depuis très longtemps, qui font même le principe même de Transculture. Ça veut dire aussi que là, on a une grosse exposition avec l'École nationale de Bourges, École d'art de Bourges, qui a un post-diplôme orienté création sonore. Je crois qu'il y a 2-3 écoles en France. On avait déjà travaillé avec Locus Sonus, un laboratoire d'art sonore dont j'ai fait partie du comité scientifique, mais il n'y a pas tellement encore d'écoles, et en Belgique non plus d'ailleurs, malheureusement, qui travaillent le son. Et là, vraiment, pendant ces 3 années du post-diplôme, le son a été au centre du projet. Je pense que ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, si beaucoup d'étudiants de Bourges vont après au Frénois, parce qu'il y a quelque chose dans cet esprit interdisciplinaire, très orienté aussi vers le contemporain, vers la nouvelle technologie, mais aussi avec le son. Et donc là, Jean-Michel Ponty, qui s'occupe de scénographie, qui est musicien lui-même, est aussi prof à Bourges et a repris la coordination de cette expo. Et donc, dans la Grande Halle, il y aura une vingtaine d'étudiants intempestifs. Ça va d'étudiants plutôt plasticiens à d'autres plutôt radiophoniques, d'autres encore très hybrides. Et il y a cette idée un peu de la projection sonore que Jean-Michel a voulu donner à cette exposition. Donc, dans une Grande Halle, il y a 20 œuvres. Alors, comment on évite le chaos? Comment on travaille aussi en bonne entente avec des architectures, avec ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire dans cet espace? Ça, c'est tout le principe de City Sonic. Ça, c'est un temps fort dans le parcours. Il y a quand même 80 artistes cette année, donc je m'étais dit que ce serait une petite édition parce que les temps sont plus durs, et etc. Mais non, je ne peux pas m'empêcher, il y a autant d'artistes que l'année passée, juste qu'ils sont un peu plus jeunes. Et il y a aussi beaucoup de performances cette année. J'avais envie de ponctuer vraiment le parcours, plus que nous l'avions fait auparavant encore, avec des performances, avec des rencontres, avec des conférences, avec des workshops aussi. On a toujours des ateliers pour enfants, les Sonic Kids, on peut s'initier à la lutherie sauvage ou encore aux vêtements intelligents avec le son. Enfin, il y a plein de possibilités. Il y a aussi ces conférences, ces performances. Par exemple, on le côté toujours Corsair Pirate, on est dans une galerie commerçante. On a, vous savez, parfois les commerces vont moins bien au centre-ville aujourd'hui à cause de ce qui se passe à l'extérieur et des grands supermarchés, etc. Et donc là, les commerces vidaient au centre-ville. Et dans ce passage du centre, on a pris une dizaine de magasins d'assaut et les artistes font d'un magasin une espèce de maison sonore, une installation. Et donc là, on a appelé ça passage du son, passage du centre. C'est une belle expression de Gilles Malatré, qui travaille aussi avec nous sur la Sonic Radio. On a aussi notre propre radio dédiée au festival. Et pour moi, c'est très important, justement, de retourner vers des lieux qui ne sont pas des musées, des galeries. Ça a toujours été le propos de City Sonic, mais je veux dire, c'est encore plus cette année qu'avant. Donc, je dirais, cette implantation dans les commerces aussi, au centre-ville, avec la complicité des commerçants, qui sont bien contents, d'ailleurs, qu'on s'occupe d'eux et qu'on métamorphose aussi leur lieu, pour moi, est important. Tout ça étant ponctué de rencontres aussi pédagogiques. Je pense à Alexandre Castan, par exemple, qui est un critique et qui est aussi prof à l'École de Bourges, avec qui j'ai une grande complicité depuis longtemps. On va écrire un livre ensemble, d'ailleurs. Alexandre va faire une conférence autour d'un voyage sonore qui est lié au dernier livre qu'il a sorti, Journal audio-biographique, très intéressant, d'ailleurs. Pour moi, tout cela fait partie d'un tout, en fait. C'est une espèce de constellation sonore avec des rappels historiques. Hein. On a aussi des artistes très importants cette année. On a des documents vidéo inédits de Laurie Anderson chantant Oh Superman en français en 1979 à Liège, au Cirque d'Hiver, qui était un endroit d'art contemporain très aimé de tous les artistes indisciplinaires. Et on a aussi le fameux Global Groove de Namjoon Paik. Tout ça sont des archives de vidéographie à Liège, qui a fait entre 76 et 86 plus de 100 émissions à la RTBF à l'époque. Vous voyez que les temps étaient un peu différents. Sous la houlette de Robert Stéphane, qui était directeur de la RTBF et qui est toujours à l'initiative des vidéographies. des émissions de vidéo art où il y avait Bill Viola, les frères Dardenne, Godard, Dame Jumpek, Fred Forrest, allait dans tous les sens. Mais là encore, on se rend compte que cette utilisation du son à l'époque du vidéo art et de cette période très hybride que Louis Anderson incarne bien entre performance, musicien, musicienne et artiste aussi des technologies de son temps, on se rend compte que le son est aussi un trait d'union. Et c'est ça que j'ai un peu voulu mettre en avant en rappelant aussi ces grandes figures. Par exemple, dans Global Groove de Nam June Peck, on retrouve Stockhausen, on retrouve John Cage, mais on retrouve aussi du rock, on retrouve quasi du disco. Et cette grande idée McLuhanienne de refaire une télé à l'idée du village global, alors que Nam June Peck, on le sait, était lui-même anti-télé. C'est comme ça qu'il a créé l'art vidéo. Donc cette espèce d'utopie, de contre-utopie, et comment est-ce que le son et l'image dialoguent ensemble.
C'est un chaos indescriptible de Pamela qui remplit à présent la plage de sable fin. Pamela est au comble du désespoir et de la confusion. Soudain, elle aperçoit une silhouette familière au loin sur la plage. Pour Pamela, c'est la lumière au bout du tunnel. John tend un objet en direction de Pamela.
Qu'est-ce que ça peut être ? Un trophée de chasse ? Une chaussure de ski ? Un morceau de thon surgelé ? Ou un cocktail de jus de papaye ?
John tend la main vers Pamela. Pamela tend la main vers John.
Pamela ! Pamela !
John !
Pamela !
John !
Pamela !
John !
Pamela !
John !
Pamela, parviendra-t-elle à retrouver John ? Qu'avait-il de si important à lui demander ? Le monde de Palm Beach tel que Pamela l'a connu, existe-t-il encore quelque part? Vous le saurez au prochain épisode de Pamela.
France Musique. Pamela.
Comment voyez-vous, 14 ans c'est long, comment voyez-vous l'évolution du langage? Parce que finalement, on pourrait dire que vous êtes un peu un guetteur. Comment avez-vous vu cette évolution de l'installation sonore, de la conjugaison du langage?
Mais j'ai l'impression que les modes et les formes d'installation sonore se diversifient de plus en plus, et tant mieux. C'est vrai que quand on a commencé City Sonic en 2003 à Mons, c'était difficile. D'abord, il fallait expliquer qu'est-ce que l'art sonore. Il y avait un grand point d'interrogation dans les yeux, y compris des politiques qui nous soutenaient. Et donc, maintenant, il faut un peu moins expliquer parce que le son est quand même extrêmement présent aussi dans la ville. Peut-être que les arts urbains ont aussi joué positivement pour avoir ces conjonctions-là. Mais je pense que l'idée d'hybridité et l'idée du son comme trait d'union entre les arts indisciplinaires ou interdisciplinaires, j'espère indisciplinaires, parce qu'on a de plus en plus besoin de ces coups de pouce par rapport au conformisme qu'on vit tous les jours, et de plus en plus implanté sans devoir l'expliquer. Et j'ai l'impression aussi que beaucoup d'artistes sont peut-être un peu moins conceptuels et partent du côté plus intime, plus sensoriel, comme j'aime bien dire, partent du corps finalement, partent de la sensation, partent parfois aussi du détournement, de l'opposition à la pollution sonore qu'on vit tous les jours, et que cette manière-là de parler au son, non plus par la tête, mais par les vibrations que l'on sent par notre corps tous les jours, de manière plus fine, plus subtile, même parfois de retourner au silence, qui est une feuille, voilà. On sait bien que c'est la musique intérieure, c'est Valérie qui disait, si je ne m'abuse, quand écoute ce qu'il y a à entendre, quand plus rien n'est à entendre. Voilà, je trouve que c'est assez joli. Et je pense que les artistes sonores parlent aussi parfois à contrario de ce brouhaha, de ces bruits permanents dans lesquels on est. Et je pense que le public sent presque de manière intuitive, on n'a pas besoin de faire de grandes théories là-dedans, que finalement ces détournements sonores, ces moments d'immersion sonore, ces moments d'intimité sonore, ce sont plutôt ces formes-là qu'on défend dans City Sonic, vous l'auriez compris par rapport au grand schmilblick, sont presque des havres de paix, outre des havres de résistance, des moments où ils se retrouvent, où ils retrouvent justement leur son intérieur. Et je trouve que pas mal d'installations sonores ont compris ça. Et on est au-delà donc du son un peu repris par les plasticiens, comme ils avaient repris la vidéo, et ça arrangeait bien un petit peu pour revivifier les galeries et les musées d'art en mal d'inspiration. Mais on va au-delà de ça, plus le numérique est un peu en transversalité de tout ça, les idées d'inventeurs d'instruments qui sont toujours là aussi, on en a encore beaucoup dans cette édition. Donc toute cette diversité, toute cette cosmogonie-là, on ne peut pas la mettre dans un sac, justement. Et je trouve que c'est ça intéressant, parce que les créateurs sonores d'aujourd'hui nous parlent toujours par un biais auquel on ne s'attend pas nécessairement. Et c'est ça qu'on essaye de faire dans City Sonic, d'avoir une espèce de polysémie, polyphonie, polyrythmie et polysensorialité, justement, des arts sonores dans la ville.
quel est votre public ?
Alors, c'est un public très divers. Il y en a plusieurs, j'allais dire. Il y a évidemment les aficionados de Citronic. Depuis le temps, on a un peu des vieux résistants maintenant, après 14 ans, et tous ces festivals qui meurent de manque de subsides ou bien de fatigue. Et donc, il y a les aficionados un peu internationaux, parce qu'il y a une dimension internationale et internationaliste, échangiste, j'allais dire, au sens noble du terme, dans Citronic. Mais il y a aussi les locaux, les gens de la ville de Mons. C'est parfois les difficile d'ailleurs à convaincre, parce que on leur a balancé beaucoup de bruit, beaucoup de choses dans Mons 2015. Ils ont aussi envie d'être un peu en paix, et puis parfois il faut les tirer en dehors du café de la Grande Place, où ils prennent leur bonne bière, pour aller voir des choses peut-être un peu plus qui demandent quand même une attention. Donc on a tout un aspect pédagogique. On travaille aussi avec des associations, on travaille beaucoup avec les enfants aussi, pour que les parents viennent, avec les ateliers Sonic Kids tout le long de l'année. On a aussi un public, j'allais dire, très mélangé. On a pas mal de Bruxellois, on a pas mal de gens du nord de la France, c'est tout près. On travaille beaucoup cette année, il y a presque la moitié des artistes sont français, je ne calcule pas, mais ça se fait comme ça. Outre l'école de Bourges, on a beaucoup d'artistes français. Et donc, on a un public très, très hybride, et ce que j'aime bien, c'est que c'est un public de curieux, parce que j'ai souvent expliqué à certaines personnes qui nous finançaient que ça ne servait à rien de balancer le budget de Citronic, qui est relativement modeste, pour faire venir par exemple Brian Eno, parce qu'il ne saurait même pas qui c'est, en fait. Alors tout le monde viendrait de l'extérieur, peut-être bien sûr l'international, mais ce qui compte, c'est aussi se parler par la proposition même, au-delà du nom, aux personnes qui sont là. C'est aussi les touristes, les gens qui se baladent dans la petite ville de Mons, qui est quand même une ville jolie, de patrimoine, et qui redécouvrent les architectures de la ville de cette manière-là. Et ce qu'on essaie, c'est qu'ils découvrent aussi des architectures qu'ils ne connaissent pas, même des passages commerciaux parfois un peu délaissés ou parfois pas très jolis. Et ça fait partie aussi du challenge, ne pas toujours être vers le beau, mais métamorphoser pour intéresser les curieux et le passant, finalement. Le promeneur devient un promeneur sonore.
Édition sous-entend une 15e édition, donc est-ce que vous allez fêter ça pour les 15 éditions de Citronic?
Alors c'est vrai que je n'y avais pas pensé, parce qu'on est toujours tellement sur la balle, j'allais dire, et un peu la résistance de comment est-ce qu'on va faire la prochaine, même si ici on a certains soutiens réguliers, notamment du ministère, et tant mieux, on est en train de renégocier ça d'ailleurs. Mais je pense qu'on va aussi s'étendre vers d'autres contrées. On est déjà en parlementation avec d'autres villes, d'autres partenaires, parce que Citronic finalement a vocation à voyager. On l'a beaucoup fait aussi en France. L'année passée, j'étais à Taïwan, où il y avait une exposition, notamment avec des œuvres de Citronic. Donc ce côté rhizomatique est vraiment là, on ne peut pas s'en empêcher. Et je pense qu'à chaque fois, il faut bien réfléchir sur pourquoi on fait ça encore aujourd'hui, dans quel contexte, avec quelle proposition. Donc c'est vrai que cette année, en se repositionnant assez fortement dans la programmation autour des émergences et des nouvelles découvertes, des liens avec les écoles d'art, mais pas que, comme on avait déjà fait deux éditions auparavant, c'était un peu reprendre son souffle pour repartir, je pense, vers d'autres propositions où il y a évidemment des échanges, des artistes de niveau international, comme il y en a aussi cette année, mais peut-être un peu moins. Et ce qui me semble vraiment important, c'est comment justement toutes ces formes, performances, installations, ateliers, peuvent se se fondre ensemble harmonieusement sans que l'une soit l'alibi de l'autre, justement. Comment est-ce qu'on peut... Et ça passe par un dialogue avec la ville, avec le terreau même où, dans lequel on est. Alors c'est vrai que dans ce contexte post-musicien, les choses sont un peu brouillées. La culture, le culturel parfois a pris d'autres orientations que celui de la création pure, qui est un peu le nôtre, et de la création prospective. Je ne pense pas qu'on a envie d'abandonner ça, moins que jamais. On voit bien à quel point c'est nécessaire, non seulement pour les jeunes artistes, mais pour les autres aussi, parce que voilà, ça devient de plus en plus difficile d'être accepté pour un projet et non pas pour un produit déjà bien empaqueté. Et nos partenaires réagissent de la même manière, et c'est bien comme ça. Voilà, on a un partenariat avec Ars Musica, dont on est très content pour l'exposition qui va venir à De Schaerbeek autour du thème d'Ars Musica au Japon. Je pense que ça permet aussi de produire des œuvres et de prendre des risques. On n'a pas choisi que des œuvres qui existaient déjà, où on en fait des nouvelles versions, parce qu'on ne peut pas s'empêcher. Pour les artistes, c'est aussi des opportunités de production, de diffusion. Et je pense qu'en tant que programmateur, on doit être très attentif à ça et non pas être ce qui est l'anti-stissonique, une espèce de champignon qui vient dans une ville, qui se pose, qui fait sa com et qui repart et qui attend un an pour refaire un autre champignon. Finalement, une espèce de routine là-dedans qui, moi, personnellement, ne m'amuse pas, mais je dirais même idéologiquement, je pense qu'il faut vraiment combattre ça. Et le public, finalement, n'est pas pour ou contre. Le public, il réagit par rapport à ce qu'on lui propose. Et le son est un très bon trait d'union, encore une fois, sensoriel, pour arriver à cela.
Merci beaucoup, Philippe Franck. À bientôt.
À bientôt.
Bruno Le Thor et François Bonnet, Tapage Nocturne. France Musique.
L'œuvre de Michel Bokanowski est mystérieuse. Placée sous l'auspice double de la culture musicale classique et de ses lectures schaeffériennes, Michel Bokanowski se sert des techniques électroacoustiques sans renoncer pour autant aux tonalités instrumentales. Depuis plus de 40 ans, elle crée des musiques de concert ou des musiques de film, signant notamment la bande-son d'une œuvre majeure du cinéma expérimental français, L'Ange, du réalisateur Patrick Bokanowski. sa venue au studio 107 de la Maison de la Radio est l'occasion d'évoquer avec elle sa musique si personnelle et si touchante. Michel Bokanowski est l'invité de ce tapage nocturne. Michel Bokanowski, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez reçu un enseignement musical plutôt classique, puis plus moderne avec l'influence de Schoenberg, pour enfin vous intéresser à la musique concrète. Comment expliquez-vous un tel parcours ?
Dès le début, je voulais faire de la musique concrète. Mais je n'ai pas voulu commencer par ça, parce que j'ai pensé que je ne reviendrais jamais vers l'écriture. J'avais envie de faire d'abord de l'écriture, et ensuite de la musique concrète. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté de faire de l'écriture. Parce qu'en musique concrète, on peut faire un peu n'importe quoi. Et en écriture, ça donne une grande discipline qui est très utile, je pense, dans le travail de musique concrète.
Vous avez signé la musique du film L'Ange de votre mari,
oui.
Film qui est devenu vraiment culte au fil du temps. Comment vous avez collaboré sur cette œuvre cinématographique et comment vous avez conçu cette composition ?
Alors, contrairement au court-métrage que j'ai fait avec Patrick, où j'ai toujours fait la musique après qu'il ait terminé le montage image, pour L'Ange, comme c'était un long-métrage, je me suis dit que c'était pas possible d'attendre qu'il ait terminé le film pour faire la musique. Donc j'ai même écrit la musique sur le scénario avant même les tournages. Et ensuite j'ai écrit la musique, c'est-à-dire j'ai écrit ce que je fais d'habitude, des motifs, des éléments. Ensuite au fur et à mesure que lui a avancé, j'ai retravaillé ces éléments. Mais j'avais une structure de quatuor à cordes très, très solide au départ.
Thank you. Vous êtes né dans une famille de musiciens. Comment le choix que vous avez fait, c'est-à-dire quitter la tradition pour aller vers d'autres voies, a-t-il été perçu ?
D'abord, je n'ai pas du tout fait de musique, je faisais tout à fait d'autres études. Ma mère était musicienne. Du côté de mon père, c'était autre chose, mais c'était aussi des musiciens, mais amateurs. Et moi, on ne m'a pas du tout poussée vers la musique. Donc j'ai commencé très tard, à 22 ans, 23 ans. J'adore la musique classique, ce n'est pas un renoncement. J'étais très très intéressée par les écrits de Schaeffer, dès le début.
Qu'est-ce qui vous a passionné dans ces écrits ? Qu'est-ce qui vous a attiré ?
La recherche, la nouveauté. Je ne me voyais pas refaire de la musique classique, pas du tout.
Vous êtes passée par le GRM d'ailleurs ?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous a apporté cette expérience ? 2 ans vous êtes restée, c'est cela ?
J'ai fait le stage qui dure 2 ans. Je suis restée 1 an en plus pour faire de l'informatique musicale. J'étais comme un poisson dans l'eau. J'étais dans mon élément, beaucoup plus que dans l'écriture. Mais ensuite, j'ai quand même continué à faire de l'écriture. J'ai fait pas mal de musique mixte. J'ai fait de la musique concrète à partir de sons d'éléments écrits. J'ai fait beaucoup de bandes. Donc, une de mes premières musiques qui s'appelle Pour un pianiste, c'est écrit pour un piano. C'est des éléments enregistrés. Ensuite, j'ai fait une bande. Et ensuite, j'ai réécrit une partition pour le concert. Donc c'était vraiment une musique mixte. J'en ai fait 3 ou 4. Petit à petit, je suis vraiment allée de plus en plus vers l'électronique, vers le... Maintenant, je travaille surtout avec mon synthétiseur. Je travaille moins avec des musiciens. Pourtant, j'adore ça.
Vous avez longtemps travaillé avec la bande magnétique,
oui.
Plus longtemps que certains autres compositeurs. Ah, oui. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ?
C'est encore le cas.
C'est un médium qui est particulièrement pertinent pour l'écriture électroacoustique, selon vous ?
Je sais pas, j'ai toujours aimé ça, manipuler de la bande. Le travail concret, vraiment, ça m'a toujours intéressé. Maintenant, je suis de plus en plus sur l'ordinateur, même presque tout le temps maintenant. Mais j'ai toujours des magnétophones et ça devient un problème quand même de travailler des bandes. Il faut trouver des gens qui entretiennent les magnétos, il faut pouvoir acheter de la bande magnétique. Enfin, ça pose beaucoup de problèmes. Mais je ne fais pas de mixage numérique, je continue de mixer en analogique.
Thank you.
Alors vous faites l'analogie entre la composition et la sculpture. C'est la matérialité du son qui vous fascine et qu'on retrouve aussi dans l'usage de la bande.
Oui, oui. C'est vrai, on façonne le son, on le travaille jusqu'à temps qu'il ressorte quelque chose qui vous intéresse.
Et la bande magnétique, c'était cette possibilité d'avoir un son matérialisé qu'on peut manipuler, qui est là.
Bah, de toute façon, avant, quand j'ai commencé, il n'y avait pas autre chose que la bande magnétique, donc j'étais bien obligée de faire comme ça. Mais je trouve que l'ordinateur, il y a vraiment beaucoup de qualités, beaucoup d'avantages aussi. Je n'ai pas l'impression de faire un travail très différent, mais j'utilise d'autres outils, enfin, je fais des choses quand même... On croit qu'on fait des choses différentes, mais est-ce qu'on fait pas toujours la même chose ?
La boucle est un des éléments de votre composition. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme ressource compositionnelle ?
Bah d'abord, pour travailler un son, c'est très intéressant parce qu'on le répète. Au lieu que ça se déroule dans le temps, on l'a sous la main. On peut déjà l'écouter très bien, on peut le manipuler, et on peut le faire varier. Une des choses intéressantes, je trouve, dans la musique concrète, le fait de pouvoir... fermer un son, le mettre en boucle et travailler la résonance, travailler l'attaque et développer les résonances. C'est vraiment une des choses qui, depuis le début, qui me passionne. C'est le son percussif, l'attaque, résonance, et c'est le principe de permanence, variation et l'enrichissement de la résonance. Beaucoup de mes musiques sont basées là-dessus.
Vous dites d'ailleurs que la boucle, c'est un portail vers la musique. C'est la brique première pour déjà créer un événement musical.
Pense.
Thank you.
ça m'a permis de greffer des tas d'autres éléments, mais disons que le quatuor à cordes me donnait une variation de tessiture, mais un peu dans la même famille. C'était des sons très classiques, mais avec beaucoup de possibilités de manipulation quand même.
Et la collaboration avec votre mari, est-ce que c'est facile d'abord de travailler en couple ?
Qu'est-ce qui est facile ? Écoutez, c'est pas forcément... Je sais pas, c'est ni difficile ni facile. C'est très intéressant parce qu'on se connaît très très bien. On a fait beaucoup de choses ensemble maintenant. L'ange, c'était toute une aventure. Hein. Ça a duré plusieurs années.
Combien de temps exactement ? Le film est sorti en 1982, c'est ça ?
Il est sorti en 82, mais la musique était terminée en 80, en fait. Le mixage était terminé en 80.
Et vous aviez commencé ?
Moi, en 77.
Oui, donc longue aventure.
Oui, 3-4 ans. Et lui, les tournages, oui, c'est ça, 77, 76, 77.
Vous avez été surprise par la place de ce film dans l'histoire du cinéma, parce que c'est vraiment devenu un film
j'ai
culte.
Pas été, c'est-à-dire, c'est maintenant que vous me dites ça, parce que au début, c'est pas, les choses sont venues petit à petit. Hein. Je veux dire, maintenant, il se passe toujours des choses avec l'ange, mais à notre grand étonnement, c'est un film qui apparemment qui a marqué beaucoup de gens, et on est très heureux de ça. Et là, on vient de terminer un nouveau long métrage.
Qui sort quand ?
Qui sort, en ce moment, il passe à l'Étrange Festival. Il est sorti, la première projection c'était au Festival d'Annecy, au mois de juin donc. C'est un film qui utilise les techniques de l'animation, c'est-à-dire image par image, mais beaucoup d'autres techniques aussi, la prise de vue réelle, enfin c'est pas de l'animation. Il est sorti à Annecy hors compétition parce que c'est pas vraiment un film d'animation.
Préparez-vous une nouvelle œuvre seule, électroacoustique?
Oui,
en ce moment.
Prépare une nouvelle œuvre.
Peut-on en savoir plus? Est-ce que vous avez un titre? Est-ce qu'il y a un concert qui s'annonce?
Non. Bon,
pour l'instant, c'est...
Non, je travaille pour moi. En fait, c'est juste après le mixage du nouveau film, donc au mois de février, j'ai changé des... Je me suis un peu modernisée dans mon studio, j'ai changé les câblages, j'avais des choses qui n'allaient pas du tout. Et pour tester mes nouveaux câbles, il fallait bien que je teste avec quelque chose. Je me suis mis sur quelque chose qui m'a passionnée. Je ne sais pas ce que ça vaut. On verra.
À toi. Quand je te dis stop, c'est stop. Stop! Thank you.
Alors, on trouve dans votre catalogue des œuvres à destination du concert, de la danse, du cinéma. Pour vous, c'est un tout ou vous ne reconnaissez que certaines œuvres qu'en faisant partie réellement de votre catalogue?
Ça dépend, parce que le cinéma, c'est surtout avec Patrick. J'ai travaillé avec le cinéaste, mais c'est très difficile parce qu'ils s'attendent... Je peux pas travailler avec d'autres gens comme je travaille avec Patrick, c'est pas possible. Donc les dés sont faussés au départ. J'aime beaucoup travailler pour des chorégraphes, mais c'est assez difficile. L'idéal pour moi, c'est quelqu'un qui prend une musique qui existe et qui fait un spectacle dessus. Mais je préfère le travail en studio, toute seule. Mais j'adore travailler aussi avec d'autres gens. Enfin, je sais pas comment dire. C'est merveilleux pour moi d'être dans un théâtre, de travailler avec des gens de théâtre, avec des danseurs, j'adore ça. Mais mon vrai travail, c'est quand même pour le concert, je crois.
Pour le concert et avant tout en studio.
En studio, oui. Ouais. Et après, si c'est utilisé, par exemple, Cirque a été utilisé par un chorégraphe, je suis très très contente. Mais c'est pas la même chose. D'abord, on a des contraintes qui vous sont pas propres. Moi, je m'impose très bien mes propres contraintes, tout le temps. Mais les contraintes des autres, je vais bien les accepter, mais elles m'intéressent pas forcément. Il y a des gens, j'ai travaillé avec un chorégraphe japonais qui me laissait vraiment énormément de liberté, là, c'était passionnant. Quand on me fait refaire 10 fois la même chose pour un but que j'arrive pas vraiment à comprendre. Puis je pense que c'est dans ce genre de travail, il faut que en danse, la musique a toujours été première avant la danse. Je veux dire, le sac du printemps, c'est d'abord la musique. Quand vous êtes à l'opéra, on voit d'abord musique, c'est en premier, et la chorégraphie vient après. Maintenant, en fait, les chorégraphes, en général, ils se mêlent beaucoup de la musique, malheureusement, je dirais. C'est-à-dire, ils vous font refaire des choses. Moi, quelquefois, j'ai dit, mais écoute, moi, là, je pense que tu devrais pas faire ce pas-là, tu devrais le faire plutôt dans l'autre sens. À ce moment-là, j'ai la panique.
Merci beaucoup en tout cas Michel Okanowski d'être venu nous voir dans ce tapage nocturne et à bientôt.
À bientôt, merci.
This is Anna.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique était ce soir Tarbou Klifa et Pierre Montaille, attaché d'émission Soisic Noël, chargé de réalisation Bruno Rioux-Maillard. Place maintenant aux à la brévée d'Anne Montaron. Bonne nuit.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.